Bonjour, bienvenue, il est 10h à Paris, 8h en temps universel, merci d'écouter RFI. À suivre dans 10 minutes vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes vos réactions au lendemain de la clôture du dialogue national au Sénégal. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, le premier veto américain depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. C'était hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis ont sans surprise bloqué un texte qui appelait à un cessez-le-feu à Gaza et à l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire. Les États-Unis qui pressent les Européens de dépenser plus pour leur défense, une demande qui plane sur la réunion aujourd'hui des ministres de la défense de l'OTAN à Bruxelles. En République démocratique du Congo, c'était il y a 25 ans, jour pour jour, la guerre des six jours commençait à Kisangani. Un quart de siècle plus tard, les auteurs de ces violences n'ont jamais été jugés. C'est ce que dénonce un rapport de l'ONG Amnesty International. Et puis c'est la sensation du tournoi chez les femmes cette année à Roland-Garros. La Française Louise Boisson va tenter de décrocher cet après-midi une place en finale. Elle affronte l'Américaine Coco Gauff. Les États-Unis ont donc à nouveau empêché le Conseil de sécurité de l'ONU de réclamer un cessez-le-feu et un accès sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza. Sans surprise, ils ont mis leur veto à un projet de résolution réclamant tout cela. C'est le premier veto de la nouvelle administration Trump, alors que les États-Unis restent le principal fournisseur d'armes d'Israël et alors que leur allié israélien fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. À New York, Karine Auton.
Sous Trump comme sous Biden, Washington justifie ses vétos de la même façon depuis 18 mois. Les décisions ne doivent pas venir de New York. Elles saperaient les progrès des négociations sur le terrain. Mais cet argument n'est plus audible pour les 14 autres membres du Conseil qui ont laissé éclater leur colère hier. Pour Samuel Sbogar, l'ambassadeur slovène, le Conseil est responsable devant l'histoire.
La résolution n'a pas été adoptée, mais elle portait un message fort. Assez de souffrances de civils, assez de cette nourriture utilisée comme arme. Assez, c'est assez.
L'ambassadeur pakistanais, lui, estime que ce veto signifie que les vies de 2 millions de Palestiniens ne comptent pas.
Cela restera non seulement une tâche morale sur la conscience de ce Conseil, mais aussi un moment fatidique d'abdication politique qui résonnera pendant des générations.
14 voix contre une, celle qui compte et qui bloque tout, celle qu'a remercié l'ambassadeur israélien aussi. Danny Danone a expliqué que ce projet de résolution n'avait pas lieu d'être puisque la distribution de l'aide humanitaire avait repris via la Fondation humanitaire de Gaza, gérée par les États-Unis et Israël. Une fondation pourtant fortement critiquée pour son manque de neutralité. Karine Auton, New York, RFI.
Mais sur le terrain à Gaza, au moins 10 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens à différents endroits de l'enclave. Cette nuit, information de la défense civile de Gaza et puis les corps de deux otages israélo-américains enlevés lors des attaques commises par le Hamas le 7 octobre ont été ramenés en Israël à l'issue d'une opération spéciale du Shin Bet, annonce faite il y a quelques instants par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'actualité, c'est aussi ce troisième coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine. C'était hier et comme souvent des déclarations mais peu d'avancées concrètes. Le Kremlin affirme ainsi que la conversation était positive et productive. Volodymyr Zelensky a lui appelé sur le réseau social X à ne pas se montrer faible face au président russe, alors qu'aujourd'hui les ministres de la défense de l'OTAN sont réunis à Bruxelles, réunion de préparation avant le sommet de l'OTAN prévu fin juin. Une réunion qui a lieu alors que les États-Unis font pression sur les Européens pour qu'ils dépensent davantage de moyens pour leur défense. Précision, Julien Chavanne.
Pitek 7 ne sera pas là. Le secrétaire d'État américain à la Défense sèche la réunion préparatoire. Mais l'ambassadeur de Washington à l'OTAN a bien fait passer le message. Moscou prépare déjà son prochain coup, dit-il. Pas le choix, il faut donner plus d'argent pour dépasser la Russie, a prévenu Matthew Whitaker. Plus d'argent, c'est-à-dire 5% du PIB de chacun des 32 pays de l'Alliance Atlantique, comme le souhaite Donald Trump. Message amplifié par Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN.
Il est clair que nous auront besoin de dépenses de défense nettement plus élevées. C'est indispensable. Nous sommes à un tournant pour notre sécurité. Des défenses solides envoient un message clair. Personne ne devrait jamais songer à nous attaquer.
Donald Trump laisse planer la menace de retirer ses troupes d'Europe si les alliés ne dépensaient pas davantage. Marc Routeux reste optimiste. Un accord est possible au prochain sommet dans 20 jours. La France et l'Allemagne sont déjà prêtes à ouvrir le portefeuille.
Et ce matin, le ministre allemand de la Défense affirme que son pays va avoir besoin de 50 000 à 60 000 soldats supplémentaires au cours des prochaines années pour répondre aux nouvelles capacités de défense réclamées par l'OTAN. À l'écoute d'RFI, 10 heures passées de 5 minutes en République démocratique du Congo, il y a 25 ans, jour pour jour, la guerre des 6 jours commençait à Kisangani, ville du nord-est du pays. Des centaines de civils étaient tués, des milliers d'autres blessés dans des affrontements qui ont opposé dans cette ville congolaise les forces ougandaises et rwandaises. Un quart de siècle plus tard, les auteurs de ces violences n'ont jamais été jugés. C'est en tout cas ce que dénonce un rapport de l'ONG Amnesty International. À Kinshasa, Pauline Azidi.
Amnesty International évoque une impunité insupportable pour les victimes qui ne se découragent pas pour autant. En effet, 25 ans après, les témoignages rapportés par l'ONG sont poignants et le désir de justice y apparaît profondément ancré. Une impunité qui, selon Amnesty, alimente encore le cycle de la violence. Mais pour Alice Banens, conseillère juridique, il n'est pas trop tard pour juger ces crimes.
La justice peut encore être obtenue, même 25 ans après, et ça, on l'a vu dans bien d'autres endroits sur cette planète. On a vu des procès contre Hissène Habré des décennies après les crimes. On a vu des procès contre les Khmers Rouges aussi des décennies après les crimes. Donc, il n'y a rien qui empêche, puisque ce sont des crimes qui sont imprescriptibles, d'une gravité telle qu'ils sont imprescriptibles, il n'y a rien qui empêche à ce que des procédures soient ouvertes aujourd'hui.
Le temps presse tout de même, prévient Alice Banens. Avec le temps qui passe, ce sont des preuves qui disparaissent, des témoins ou des acteurs qui décèdent. Si en 2022, la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à verser des réparations, aucun responsable n'a pour autant été désigné et surtout cette Cour n'a pas la compétence pour juger le Rwanda. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Le feu vert donné hier à la Bulgarie pour adopter l'euro, feu vert de la Commission et de la Banque Centrale Européenne. Sofia compte adopter la monnaie unique dès le 1er janvier prochain, mais d'après des récents sondages, près de la moitié des Bulgares sont pour garder le lev, la monnaie nationale. Écoutez les explications de l'économiste Nathalie Janson.
Et les craintes, ce sont les craintes habituelles de soit le passage à l'euro favorise l'inflation, comme on l'a beaucoup entendu chez nous aussi, hein, à l'époque du passage à l'euro. Et la deuxième crainte qu'on entend souvent, c'est effectivement le fait qu'on n'est plus maître de sa monnaie. Donc, on pourrait se voir contraint à subir des traitements qu'on n'a pas choisis. Donc, à partir de là, on peut nourrir beaucoup de fantasmes. Par contre, les avantages évidents d'avoir une monnaie unique qui est souvent mise en avant, c'est effectivement la facilité des échanges, puisque vous avez une monnaie pour une zone économique qui est importante. En effet, elle favorise la position de la Bulgarie sur le marché unique, puisqu'en fait, elle pourra commercer sans problème avec la même monnaie, donc sans se préoccuper des taux de change ou des dévaluations, enfin, des coûts de transaction supérieurs.
Nathalie Janson, jointe par Nicolas Fellmann. Enfin, à 22 ans, elle va tenter cet après-midi d'aller chercher une place en finale de Roland-Garros. La Française Louise Boisson, 361e joueuse mondiale à affronte Coco Gauff, mais elle est d'ores et déjà la sensation de cette compétition, Frédéric Suto.
Loïse Boisson, Ballon d'Or, et pourquoi pas, même si l'intéressée reconnaît qu'elle ne s'intéresse pas vraiment au foot. Son truc à elle, depuis qu'elle est gamine, c'est la balle jaune, le tennis, une passion folle qu'il a fallu canaliser, ce coup droit dévastateur, ce caractère entier sur le court qui laisse les spectateurs babas d'admiration.
C'est incroyable, elle est en demi quoi, c'est un truc de fou. Jamais vu ça, je pensais pas voir ça un jour en vrai, une Française en demi-finale de Roland-Garros.
Vous la connaissiez là, il y a 10 jours, Loïse Boisson ?
Pas du tout, mais ça y est, on est prêt à avoir des posters maintenant.
Le public de Roland sous le charme, face aux médias, la Dijonnaise, 22 ans, ne se démonte pas, à l'aise en anglais, subtil en français, en dire un peu, mais pas trop.
Quand j'ai commencé le tennis, et même pendant pas mal d'années, j'étais assez nerveuse sur un terrain, très très émotive. Pendant ma blessure, j'ai énormément travaillé sur moi-même, j'ai eu le temps. Ça m'aide aujourd'hui et j'arrive à gérer mes émotions.
Jessica Pegula, Mira Andreeva, deux top 10 à son tableau de chasse. Et maintenant Coco Gauff, l'américaine, numéro 2 mondial, qui se présente en demi-finale.
Moi, je la vois gagner.
Ah ben voilà, il était temps. 2025, c'est Loïs.
Loïs, mais avec ou sans tréma sur le i?
Oui, non, il y a un tréma sur le i.
Un tréma et un sourire. Frédéric Suto, Roland Garros.
Frédéric Suto, conquis tout de suite Juan Gomez.
Merci Jeanne Bartoli, 10h10 à Paris.